Bonjour à tous. Êtes-vous en forme ce matin? Il me semble que vous chantez bien, vous autres. Oui? Super. C'est Pâques et je vous souhaite une joyeuse Pâques. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, il y avait un jour, un professeur a donné un devoir à ses élèves et puis il a demandé à ses élèves d'écrire une dissertation sur le plus grand homme vivant. Un des élèves a écrit une dissertation sur Jésus. Alors, le professeur est allé voir l'élève et a dit, « Sais-tu, tu as fait un beau travail. Au niveau de la dissertation, c'est vraiment bien. Tu as bien construit, c'est vraiment bien fait, les phrases et tout ça. La seule, il y a juste un problème. J'ai demandé, c'était bien clair, j'ai demandé de faire une dissertation sur le plus grand homme vivant. » Alors, le jeune homme a répondu, l'élève a répondu, « Jésus est vivant. » Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça ici ce matin? Yeah! Oh, vous pouvez faire mieux que ça, le sentier. Je vous connais. On célèbre la résurrection de Jésus. Yes! Jésus est vivant. D'autres sont morts, ils sont restés morts, mais Jésus est mort et il est revenu à la vie. Et c'est ça qu'on veut regarder ce matin. J'aimerais qu'on regarde 5 faits sur la résurrection. Et pour ce faire, je vais tourner dans le livre des Actes. Alors, si vous avez votre Bible avec vous ce matin, Actes chapitre 4, et on va lire juste les 3 premiers versets, mais nous allons revenir dans ce passage-là. Donc, vous gardez votre doigt dans ce passage-là, d'accord? Alors, Actes chapitre 4, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 3 pour commencer. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Arrêtons notre lecture juste ici pour le moment. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir premièrement, c'est qu'on voit, et c'est dans le livre des Actes, c'est que parce que Jésus vit, sa persécution continue. Sa persécution continue. Quand on regarde dans ce passage du livre des Actes, chapitre 4, on voit que ce sont premièrement les apôtres qui sont persécutés, c'est eux qui seront mis en prison et tout ça, qui vont subir de la persécution. Mais en réalité, on découvre que c'est Jésus qu'on persécute. Maintenant, la raison pour laquelle les apôtres se font persécuter ici, c'est parce qu'ils ont fait un miracle. Voyez-vous, l'apôtre Pierre et Jean se dirigeaient vers le temple. Alors, ils ont marché vers le temple et il y avait la porte qui était là. Et il y avait un boiteux qui était là depuis sa naissance, à côté de la porte. Et puis, il se tenait là parce que les gens allait louer Dieu, allait prier Dieu. Donc, il se tenait là, juste à l'entrée, et demandait de l'aumône, demandait de l'aide financière. Il tendait sa main, puis il voulait avoir des dons. Eh bien, voilà que Pierre et Jean s'approchent du temple et voient ce jeune homme. Alors, le jeune homme tend sa main, il veut avoir de l'aide, il veut avoir des dons. Et Pierre le regarde. Pierre s'arrête et le regarde et lui dit, « Regarde-moi dans les yeux, là. J'ai pas de cash, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et nous lisons, Pierre qui dit, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et là, Pierre tend sa main, prend la main du gars et le tire tranquillement comme ça pour que le gars se lève. Et d'ailleurs, on nous lisons dans Actes 3, 7, « Puis Pierre le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. » Alors, vous pouvez voir, depuis sa naissance, là, il est boiteux. Imaginez la joie de ce gars-là. Alors, il entra avec eux. Donc, il entre avec Pierre et Jean. Il marche, il saute, il adresse des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Alors, vous pouvez imaginer ce gars-là qui commence à courir, à sauter dans le temple et tout ça, puis il crie « Alléluia », il crie des louanges à Dieu parce qu'il est guéri. Et en Et ce faisant, cela accomplit aussi une prophétie qui avait été donnée des centaines et des centaines d'années avant, que lorsque le Messie viendra, l'ère messianique commencera, lorsque le Sauveur du monde viendra, qu'est-ce que ça dit dans Ésaïe 35? Le boiteux sautera comme un cerf. Et c'est la réalisation de cela. Et c'est ce qui arrive ici. Alors, vous pouvez voir toute la joie que ce jeune homme avait, cet homme avait. Il criait de joie, chantait des Alléluia et tout ça à Dieu. Et le monde l'entend, non seulement qu'il le voit marcher, mais la foule l'entend, puis il y a plusieurs personnes. Et les gens l'entendent, donc il parle fort. Et c'est au nom de Jésus que ce miracle se fait. Il faut savoir que dans la Bible, lorsqu'on parle du nom de quelqu'un, c'est plus que s'identifier, identifier quelqu'un. Ça parle aussi de la personnalité de la personne à cette époque. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Alors, de dire au nom de Jésus, on évoque l'autorité, la puissance de Jésus-Christ. Maintenant, la foule est toute impressionnée devant Pierre qui vient de faire ce miracle, mais Pierre, lui, va refuser de prendre le crédit pour ce miracle. Nous lisons dans Actes 3, 12, voici ce que ça dit. « Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Et chapitre 4, verset 10, ça continue en disant, « Sachez-le bien, vous tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Voyez-vous, un miracle s'est accompli, mais les chefs religieux d'Israël n'étaient pas vraiment contents parce qu'ils voyaient que la foule, de plus en plus de gens, venaient à placer leur foi en Jésus-Christ. Et ça ne fait pas leur affaire. Il n'y a pas de problème depuis le chapitre 1 du livre des Actes. Il n'y a pas de résistance. Il y avait de la résistance avec Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. Ils pensaient que c'était fini, c'était réglé le problème. On n'entendrait plus parler. Mais voilà qu'encore une fois, des miracles se font au nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus-Christ circule encore. Il est propagé. Et voilà que la résistance commence à partir du chapitre 4. Du chapitre 1 au chapitre 4, il n'y a pas de résistance. Mais là, ça commence ici. Il y a ce miracle et les gens se convertissent de plus en plus à Jésus-Christ. Mais voilà que les apôtres et les, font des miracles au nom de Jésus. Ils sont maintenant les pieds et les mains de Jésus-Christ. Parce qu'on sait que depuis que Jésus est monté au ciel, l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Jésus. Tous les croyants, font partie de l'Église, et l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes, ce sont des gens, et Jésus œuvre à travers ses enfants maintenant. Nous sommes les pieds et les mains de Jésus-Christ. Alors, lorsque tu persécutes l'Église, tu persécutes en fait Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort, il est vivant. On ne peut pas persécuter un homme mort. Parce qu'il vit, sa persécution continue. Il y avait d'ailleurs un homme du nom de Saul qui persécutait les chrétiens un peu plus loin. On voit ça au chapitre 9 dans le même livre. Et il persécutait les chrétiens. Et il avait même le droit, il avait une lettre lui permettant de mettre à mort des chrétiens et les mettre au cachot, en prison. Alors un jour, il s'en va pour persécuter des chrétiens, les arrêter et tout ça avec sa lettre. Il y avait une bande avec lui à cheval. Et voilà qu'il s'en va, il était en route et en plein milieu de son voyage pour aller arrêter des chrétiens. Il reçoit une vision du ciel et c'est Jésus qui lui parle. Et laissez-moi vous lire ce passage qui est dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Saul répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Saul persécutait les chrétiens, mais Jésus lui dit, « Tu me persécutes. » Ça a été un revirement pour Saul, il s'est converti à Jésus-Christ, Et à partir de ce moment-là, il est devenu l'apôtre Paul. Son nom a changé, il est devenu l'apôtre Paul. Et à partir de ce moment-là, il a consacré tout le reste de sa vie à servir Dieu. Voyez-vous, parce que Jésus vit, sa persécution continue. Mais parce que Jésus vit aussi, sa parole convainc. C'est sa parole qui convainc. Acte 4:4 dit « Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 hommes, 5000 personnes, sans parler des femmes, des enfants, des milliers de personnes étaient venues à Jésus-Christ à ce moment-là. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que 5000 personnes, sans compter les femmes, les enfants, placent leur foi en Jésus? Comment est-ce possible qu'une personne comme Pierre, un homme qui n'a pas d'éducation, sans instruction, c'était un pêcheur de métier, il n'y avait pas de doctorat, pas de maîtrise, pas de bac, ce n'était pas un spécialiste en or oratoire, il n'était pas reconnu pour être super éloquent. Comment ça se fait que des milliers de personnes placent leur foi en Jésus après son message? Laissez-moi vous dire pourquoi. C'est parce que Jésus vit. Pierre ne dépendait pas de sa force de persuasion ou la force d'argument. Paul dépendait de la puissance de Dieu. C'est parce que Jésus vivait en lui. On le voit d'ailleurs chez Paul, où il se fera critiquer, l'apôtre Paul, plus tard, par une église. Il se fera critiquer comme quoi qu'il n'est pas un homme éloquent. Les gens critiquaient sa façon de prêcher et parler de Jésus. Il disait, franchement, il y en a qui sont bien meilleurs que toi, Paul. Puis il le critiquait. Et Paul va passer 4 chapitres des premières lettres de 1 Corinthiens pour démontrer que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait une œuvre dans le cœur des gens pour les convaincre à venir à Jésus-Christ. C'est surnaturel. Maintenant, si 11 apôtres ont été, 11 apôtres qui ont vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus-Christ n'ont pas réussi à convaincre Thomas. Vous vous souvenez de Thomas, celui qui doute? Est-ce qu'il y a des Thomas ce matin? Eh bien, sache une chose, j'en ai connu des Thomas. Et j'ai vu ce que la puissance de Dieu a fait dans le cœur de bien des Thomas. Il y a peut-être même des anciens Thomas ici qui ont été convaincus par la puissance du Saint-Esprit à placer leur foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça a pris pour Thomas? Il a eu besoin de faire la rencontre, de rencontrer Jésus-Christ. Et quand il a eu sa rencontre avec Jésus, le Jésus vivant après sa résurrection, laissez-moi vous dire, il a été convaincu. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin vraiment de rencontrer personnellement Jésus-Christ. Vous avez besoin de venir à lui par la foi ce matin pour avoir cette relation avec lui, avec Jésus, d'une façon intime. Ces 5000 personnes ont été mises en contact avec le Jésus vivant par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été convaincus et ils sont venus au Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire, ce n'était pas évident là, de venir à Jésus-Christ à cette époque-là. Tu étais persécuté, peut-être même mis à mort. Pourtant, les gens ont été fidèles à Jésus-Christ. Il y a une force surnaturelle, une vie divine qui est placée dans notre cœur lorsqu'on vient par la foi à Jésus-Christ. Je ne sais pas, bien, on connaît pas mal tous le révolutionnaire communiste de Moscou, Vladimir Lénine. Une fois au pouvoir, Lénine s'est servi vraiment de la terreur pour parvenir à ses fins politiques. Il a mis sur pied même une police politique soviétique qui était chargée de traquer, d'éliminer ceux qui étaient contre son régime. Et il a instauré des camps de travaux forcés. C'était une vraie dictature. Lorsqu'il est mort, des autorités ont décidé de vouloir présenter son corps, de garder et de préserver son corps et qu'il serait à la vue des gens. Donc, ils l'ont mis dans un cercueil avec des vitres blindées. Vous pouvez voir son corps. Ils ont fait appel à des savants à travers tout le pays pour avoir des gens qui viendraient, qui trouveraient une façon exclusive de pouvoir préserver, d'embaumer le corps, si bien qu'on puisse le garder pour que les gens puissent venir voir le corps. Plus de 10 ans s'est passé, le corps est encore intact. Et pourquoi? C'est à chaque 2 ans, on va réembaumer le corps. Ces deux savants, finalement, qui ont réussi à trouver le moyen de pouvoir remplacer l'eau dans les tissus pour éviter qu'il y ait des bactéries et tout ça. Puis on le conserve. D'ailleurs, on dit qu'il est même plus beau qu'il était dans le temps. Ils ont tellement fait une belle job. Mais il y a des gardes autour du corps. Tu peux voir le corps, puis il y a des gardes autour du corps. Et sur le cercueil, on trouve ces paroles qui sont écrites. Il était le plus grand leader de tous les peuples, de tous les pays, de tous les temps, il était le Seigneur de la nouvelle humanité. Il était le Sauveur du monde. Il y a un problème. Il est mort. Il est encore dans le tombeau, puis il est encore mort. Avez-vous remarqué le temps des verbes? Il était, il était, il était, il était. Mais rappelez-vous des paroles de Jésus qui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Amen. Oui, on peut certainement donner une main d'appréciation et d'applaudissement au Seigneur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus a dit, « Avant même qu'Abraham vivait, je suis. » Il est éternel. Et ça, ça ne faisait pas l'affaire des gens, surtout des chefs religieux. Mes chers amis, Jésus est vivant. Voyez-vous, c'est le Jésus vivant, c'est la rencontre avec ce Jésus qui va convaincre les gens. Alors, non seulement sa persécution, parce que Jésus vit, sa persécution continue. Non seulement sa parole convainc, mais sa puissance aussi confronte. Les ennemis de Jésus croyaient qu'ils avaient réglé le problème de Jésus, que tous ceux qui suivraient Jésus allaient simplement l'abandonner lorsqu'ils l'ont crucifié. Ils ont mis Jésus dans un tombeau, ils ont scellé la porte, ils ont mis des gardes romains. Tout était terminé, tout était fini pour eux. Ses ennemis ont dit, tiens, les ennemis qu'ils voyaient en train de mourir sur la croix, ils ont dit, « Hey, si t'es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mais Jésus a fait mieux que ça. Il est mort, et trois jours après, il est sorti du tombeau et il est vivant aujourd'hui. Amen. Lorsque Pierre a parlé aux chefs religieux, il leur dit, « Vous avez crucifié Jésus, mais c'est ce même Jésus qui vient de guérir cet homme infirme. » Ces chefs religieux sont maintenant confrontés à la puissance de Jésus. Ils ne peuvent pas s'en sortir. À la puissance du Jésus vivant. Non seulement que sa persécution continue, parce que Jésus vit, sa persécution continue, sa parole convainc, sa puissance confronte, mais aussi sa présence nous rassure, nous donne une grande assurance. Nous disons dans le chapitre 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, » ça c'est les chefs religieux, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils sont étonnés de voir l'assurance de Pierre. Maintenant, Pierre n'était pas reconnu pour être le gars qui avait le plus d'assurance. Vous en souvenez? Vous vous rappelez lorsque cette femme l'a vu, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, et la femme a vu Pierre, puis l'a reconnu, puis dit, « Hey, ça c'est le gars qui était avec Jésus! » Puis il dit, « Non, c'est pas moi. Ben, moi, non. » Pierre avait dit, « Tu vas voir, le coq va chanter. Avant que le coq chante, tu vas voir, tu vas me renier trois fois. » Pierre dit, « Jamais, voyons donc, je ne ferai jamais ça. » La femme a dit, « C'est lui! » Il a dit, « Non. » Elle a continué, il dit, « Oui, c'est toi, je te reconnais. » Il dit, « Non, justement. » La troisième fois qu'il a renié, il a même juré de ne pas connaître Jésus, imaginez. « J'ai jamais vu cet homme-là. » Et pourtant là, on voit le même Pierre, et tout d'un coup, ce Pierre-là est plein d'assurance, mon ami, puis il proclame le message de Jésus-Christ avec force, avec puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a vu Jésus-Christ ressuscité. Il a connu Jésus ressuscité. Quand tu connais Jésus, quand tu connais le Jésus ressuscité, quand tu passes du temps avec Jésus, tu vas gagner de l'assurance. Ta foi va se fortifier. Et tu vas commencer à parler de lui. Juste après cette expérience-là, même les chrétiens ont prié pour avoir plus d'assurance pour parler de Jésus-Christ. Et nous disons dans 4:31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qui se passe quand tu passes du temps avec Jésus-Christ. Tu vas parler de Jésus avec assurance. Moi, je me rappelle la personne qui m'a parlé de Jésus. C'était un de mes clients. Puis, il n'avait aucune idée quelle serait mon attitude. Puis, il m'a avoué après. Il dit, normalement, quand je t'ai parlé de Jésus au restaurant, c'est un client qui m'a invité à dîner, puis il m'a parlé de Jésus-Christ. Il venait de se convertir, ça faisait 2 mois, à Jésus-Christ, il venait de placer sa foi, lui et sa femme. Puis il dit, normalement, il m'a avoué après, il dit, quand je t'ai parlé de Jésus, je m'attendais que tu me foutes un coup de poing dans la face. Et chaque fois, je te parlais, là, puis je m'attendais, il dit, il va m'en donner toute une. Tu sais, comme... Non, mais il l'a fait quand même. Vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Le soir même, j'étais avec ma femme, le soir même, il nous a exposé, lui et sa femme, le message de l'Évangile. Gauchement, timidement un peu, il n'était pas trop sûr, ça faisait juste 2 mois qu'il venait de venir à Jésus-Christ, mais il ne pouvait pas se contenir, il fallait qu'il parle de Jésus absolument. Et vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai pas donné un coup de poing dans le visage. Ce soir même, là, mon cœur a fondu, j'étais en larmes, j'étais brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la force de persuasion de ce gars-là? Absolument pas. Dieu m'a rencontré. Il y avait un rendez-vous divin avec Dieu, puis Dieu a parlé à mon cœur, a parlé à ma femme, à ma copine à cette époque-là, qui, à cette époque-là, ne voulait rien savoir de moi, ça allait vraiment pas bien. Puis elle me... En tout cas, ça, c'est un sport. Fait que... En tout cas, tout d'un coup, des souvenirs. Et tous les deux, on a ouvert notre cœur à Jésus, puis on a donné notre vie à Jésus-Christ. Mon ami, comment ça a été différent? On s'est mariés 6 mois après. Puis tout, comment c'est tellement, ça a été tellement différent? Mon ami, tu ne peux pas retenir un chrétien qui vient au Seigneur. Il veut parler de sa foi. C'est à peu près comme arrêter le soleil de briller. Tu ne peux pas. Tu veux parler de Jésus-Christ. Parce qu'il vit, son peuple partage le beau message de l'Évangile. Toute personne qui a découvert Jésus. Toute personne qui découvre Jésus-Christ veut partager l'Évangile. Alors non seulement sa persécution continue, non seulement sa parole convainc, sa puissance confronte, sa présence rassure, mais aussi son peuple partage l'Évangile, ce beau message de Jésus-Christ. Nous lisons dans Actes 4, 14, ce qui suit, il dit, « Mais comme il voyait debout, avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer, ce sont les ennemis. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant, « Que faire avec ces hommes? » En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair, pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage, voyez-vous, ils ne voulaient pas que le message de Jésus se répande. Parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, verset 20, regardez l'assurance ici, « Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » C'est plus fort que nous. On ne peut pas se taire. Et c'est pour ça que l'Évangile s'est répandu, mon ami, dans l'espace de moins que 3 siècles, plus de 7 millions de personnes sont venues à Jésus-Christ. Et on sait aujourd'hui que 3 000 personnes viennent à Jésus à toutes les heures, 24 heures sur 24, 72 000 personnes qui viennent à Jésus tous les jours à travers le monde entier. 365 jours par année à travers le monde, que ce soit en Chine, en Afrique, que ce soit même dans des endroits où il est illégal de se convertir à Jésus-Christ. Les gens se convertissent encore aujourd'hui. Je pense à cet avocat qui était un athée, Lee Strobel, un athée, puis il se moquait de ceux qui croyaient à la résurrection de Jésus-Christ. Sa femme rentre un jour puis dit, « Je me suis converti à Jésus-Christ, j'ai placé ma foi en Jésus. » Alors, Lee Strobel, qui était un avocat, qui était même l'éditeur en chef d'une section du droit dans le Washington Tribune, a commencé à faire des recherches parce qu'il voulait démontrer à sa femme que ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là. Il a passé 2 ans à analyser les faits historiques sur la résurrection. Vous savez ce qui s'est passé après 2 ans? Il s'est converti à Jésus-Christ. Puis depuis ce temps-là, il écrit des livres, plaidoyer pour Jésus, plaidoyer comme un avocat, plaidoyer pour des miracles. D'ailleurs, voici ce qu'il dit dans un de ses ouvrages, plaidoyer pour Jésus. Il dit, Strobel nous dit qu'aucun jury intelligent dans le monde entier, ne pourrait, au vu de tous les témoignages qui ont été présentés, douter raisonnablement du fait que Jésus est mort pour ensuite ressusciter. Amen. Jésus est vivant. On ne peut pas nier sa puissance, même encore aujourd'hui. Il y a à peine 2 jours, vendredi passé, je parlais à une femme qui travaille dans un organisme à but non lucratif qui aide, qui donne la nourriture à des démunis. Puis ils dépendent des dons. Et cette femme-là aime Jésus, elle a de la foi, elle n'a pas cessé de parler de Jésus quand j'étais avec elle vendredi. Et puis, elle me racontait sa foi sur Jésus, puis elle me racontait comment elle est devenue responsable de la cuisine ici. Ils vont les mercredis soirs sur Notre-Dame à Gatineau donner des repas chauds aux démunis, aux itinérants, et puis 3 fois par semaine à Hall. Et puis là, elle s'est retrouvée responsable de la cuisine à Gatineau il y a quelques mois. Alors, elle a dit, Normand, je suis tombé responsable de la cuisine, pas parce que je connaissais ça, c'est parce que le responsable est tombé malade, ça m'a tombé dessus. J'avais aucune expérience, je ne savais pas quoi faire trop. Puis là, je regarde la cuisine, il n'y avait pas de nourriture. Il faut que tu donnes 100 repas par semaine minimum, à peu près, entre 70 à 100, quelques repas. Il y a une file d'attente le mercredi pour avoir la nourriture. Alors, elle dit, Normand, ce que j'ai fait, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Jésus, Jésus, envoie de la nourriture. Il n'y a pas de nourriture, comment on va faire pour nourrir les démunis, les itinérants? Et vous savez ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai crié à Jésus qu'il envoie de la nourriture. Et là, la nourriture a commencé à rentrer dans la même semaine. Puis savez-vous, aujourd'hui, ils reçoivent une à deux palettes de nourriture par semaine. Des femmes un peu partout aussi qui préparent des repas chauds toutes les semaines. Ils n'ont pas manqué de nourriture depuis ces mois-là qu'elle a prié, qu'elle a fait de la prière à Jésus. Est-ce que Jésus est vivant? Oui, il est vivant. Dis-le à ton voisin, il a besoin de l'entendre. Jésus est vivant. Amen. Et moi, j'espère que tu as Jésus dans ta vie. J'espère que tu as demandé à Jésus de venir dans ta vie, cette vie divine. Et moi, j'aimerais te conclure par une prière. Et si tu n'as pas encore invité Jésus dans ta vie pour avoir cette vie abondante dont Jésus parle, tu peux le faire maintenant. Alors, courbons-nous, s'il vous plaît. Et vous pouvez faire cette prière avec moi dans votre cœur pour recevoir Jésus. Romains 10 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, fais cette prière avec moi. Courbons-nous un instant. Notre Père, je sais que tu m'aimes et je sais que tu veux me sauver. Jésus, tu es mort pour me sauver et tu as promis de me sauver si je te fais confiance. Et je te fais confiance, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse que tu es Seigneur. Je te fais confiance comme sauveur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi aujourd'hui. Amen. Jésus est vivant. Gloire à Dieu.